L'interview, Gilles Soulac.
Nous parlerons écologie pendant les instants qui sont devant nous. Alors écologie, on entend parler un peu partout, à droite et à gauche. Mais en votre compagnie, Daniel Krupka, bonjour, nous parlerons du rapport avec l'océan.
Oui, on va parler des océans et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire autour des océans et de la défense des océans.
Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup parce que quand on parle de climat, on parle de bilan carbone, des problématiques de notre consommation, mais on ne parle pas souvent du rapport à l'océan. Avec peut-être l'oxygénation de notre planète ou ses rapports au climat, au réchauffement de la planète. Pourquoi ?
Je pense que c'est très méconnu encore, mais aujourd'hui les océans souffrent de plein de problèmes de pollution, de surpêche, etc. Mais ils souffrent également des problèmes de climat. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait sur le climat et qui profite directement aux océans. Donc à chaque fois qu'on fait une action, je dirais, pour le climat, on fait une action également pour les océans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout ça est imbriqué. Je veux dire, le climat, c'est quoi ? C'est en fait l'atmosphère en contact avec les océans, et c'est toute une partie où il y a une régulation à la fois thermique, chimique, par contact, par mouvement de courant, etc., qui fait que tout ça est imbriqué. Il faut savoir, c'est qu'on a une machine globalement, une grosse machine, un gros moteur, une machine thermodynamique pour les scientifiques, qui fonctionne entre l'eau, et évidemment l'air que nous avons, et puis le soleil, tout simplement. Et quand on regarde cette machine thermodynamique, d'abord, elle nous réchauffe, la première chose. Et elle réchauffe les océans. Et la masse des océans, aujourd'hui, c'est les températures que nous avons, on les a parce que les océans, en fait, c'est le plus gros réservoir en fait, d'énergie, quelque part, de la Terre. D'accord ? L'énergie vient du soleil, bien entendu, mais le stockage de la chaleur, il se fait essentiellement par les océans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les océans, donc en surface ou dans les eaux, nous avons du phytoplancton. Le phytoplancton, c'est comme des plantes, en clair. Donc en gros, c'est comme les forêts. Et chacun sait que quand on va en forêt, on respire le bon air. Et bien, le phytoplancton, il fait la même chose. Il fabrique de l'oxygène. Et il fabrique de l'oxygène à partir de quoi ? À partir de la c'est le mécanisme de la photosynthèse, mais à partir du CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le CO2 dont on parle partout, il est absorbé, pour plus de la moitié aujourd'hui, par les océans. C'est-à-dire que tout ce que nous émettons comme CO2, aujourd'hui, est absorbé par les forêts, par les océans, et puis il y a un surplus qui crée effectivement les gaz à effet de serre, l'effet de serre. Aujourd'hui, les océans, c'est vraiment, je dirais, l'outil ou l'usine à transformer le CO2, quelque part. Mais à force d'en avaler du CO2, il commence à en avoir en excès. C'est-à-dire que l'océan se modifie sous l'action du CO2, sous l'action du réchauffement du climat. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le CO2, il va changer la nature même, je dirais, de l'eau dans laquelle vivent aujourd'hui les petits crustacés, les mollusques, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le CO2, il va acidifier l'océan. Alors quand vous avez regardé déjà, je dirais, je sais pas, vous trempez un petit coquillage, une coquille de coquillage, et vous la mettez dans une bouteille de coca, vous allez avoir très vite l'effet qui va se développer dans le cours de ce siècle à venir avec l'acidification des océans. C'est-à-dire que si vous mettez une coquille de coquillage dans un verre de coca, il va fondre. Désagrège, ça va fondre. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que de plus en plus, les mollusques ont du mal à se reproduire, ou ils ont du mal à créer leur coquille, ou à créer tout simplement l'enveloppe, leur environnement qui va permettre de se protéger, de se reproduire, ou tout simplement de vivre, à cause de cette acidification. Donc on craint beaucoup que d'ici la fin de ce siècle, en fait, toute la chaîne alimentaire qui démarre, je dirais, au niveau le plus bas, donc on parle des crustacés, des coquillages, etc., et qui sert de nourriture, évidemment, aux étages supérieurs, disparaissent, ou en tout cas soient altérées de manière importante. Et donc ça, ça a des conséquences quand même très, très, très néfastes.
Vous voulez dire on n'aura plus de pizza aux crustacés ?
Non, je vais pas aller jusque-là, je ne vais pas vous faire peur, mais très honnêtement, c'est quand même inquiétant de voir qu'on arrive à modifier l'acidité des océans en l'espace de 50 ans. C'est quand même quelque chose qui est quand même phénoménal. Alors, en dehors de ça, il y a d'autres phénomènes qu'on voit, dont on entend parler. Je veux dire, on a la fonte des banquises, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les océans, rien que le siècle dernier, donc au XXe siècle, ils sont montés déjà de 17 cm. Par contre, le problème, c'est que la croissance de cette élévation des mers, elle n'est pas linéaire. Donc elle était de 0,1 mm au début du siècle, on est passé à 3,3 dans les années 90, et puis ça s'accélère. Et puis en ce moment, on est en train de regarder l'Arctique qui fond en vitesse grand V, donc c'est pas ça qui va vraiment changer la donne au niveau de la hauteur des océans, mais c'est surtout la chaleur. Les océans augmentent en température. Et quand vous le savez, quand vous augmentez en température, vous gonflez votre volume. Donc ça veut dire que vous allez monter en hauteur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, il faut, bon, je veux dire, on parle beaucoup des pôles, etc. Et c'est un vrai problème, les pôles, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais l'élévation du niveau des mers va essentiellement venir du fait que la température des océans va monter. Et ça va créer évidemment des changements immenses, énormes, évidemment pour tous les gens qui habitent près des côtes, ça c'est évident. Mais également, il va y avoir du coup des changements de courant. Les courants vont s'arrêter, se ralentir, accélérer, changer de lieu. Et donc ça va perturber le climat. Aujourd'hui, nous, on est réchauffé par certains courants. Je veux dire, si vous prenez Nantes, c'est la même latitude que le golfe Saint-Laurent. Sauf que côté Canada, ils sont dans les glaces. Et nous, on a un climat océanique qui est quand même relativement tranquille.
Quand vous parlez de cela, Daniel de Krupka, je rappelle, vous êtes référencé en Greenpeace, c'est de la certitude ?
Ça, c'est aujourd'hui ce que disent les scientifiques, c'est aujourd'hui ce qu'on trouve dans tous les rapports. Bon, évidemment, il y a ceux du GIEC que tout le monde a entendu parler, mais je veux dire, quand on regarde après dans le détail chacun de ces sujets-là, aujourd'hui, il y a des rapports très sérieux de scientifiques qui ne sont pas forcément sur la place publique et qui, effectivement, alertent énormément sur ces sujets-là. L'acidification, on n'en parlait pas, je veux dire, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a des preuves très tangibles sur ça.
Mais sur des quantités aussi importantes, l'acidification se retrouve quand même ? Parce que là, ce sont des océans, c'est énorme.
Aujourd'hui, on la retrouve et on la voit et on la lit même, parce qu'on est capable de comparer par exemple des coquilles de crustacés d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans ou d'il y a un millénaire et les comparer avec les coquilles qui sont sécrétées aujourd'hui. Donc on voit bien le développement, ou enfin le changement, c'est-à-dire l'absence de développement justement de ces coquilles. Donc c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du « ah ben non, je sais pas » ou « je fais une projection ». C'est quelque chose qui est déjà mesuré. Donc on sait très bien que tout ça va arriver à un moment ou à un autre et qu'il va y avoir une altération. Le problème, c'est l'emballement. C'est qu'à quel moment, à partir de quel moment, on ne saura plus rien faire et on sera dans une situation irréversible. Aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose, mais il faut se dépêcher, très vite. Et ça, c'est pour sauver les océans, mais c'est surtout pour nous sauver, nous.
Alors, vous présentez un sujet qui est déjà, je dirais, présent aujourd'hui dans l'actualité, puisqu'on parle du réchauffement climatique, mais pour d'autres raisons, on ne parle pas forcément des océans, donc d'où l'intérêt effectivement de venir nous en parler, puisque vous êtes vous aussi plongeur, donc sensibilisé, puis j'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps à étudier ces sujets-là. Que faut-il faire alors, dans le même cas que tout le reste ? Faut arrêter la voiture, faut rouler à vélo, faut...
Non, mais indépendamment de ça, je pense que les décisions, effectivement, au niveau individuel, sont pas faciles. Bon, je veux dire, en dehors de toutes celles qu'on connaît, on vous dit, n'utilisez pas votre voiture, etc. Bon, donc, il y a tous ces gestes-là. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension politique à la chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vient des chefs d'État. Ça n'ira pas ailleurs. C'est pas les industriels qui vont nous sauver, parce qu'eux, ils ont une économie à court terme, et ils vont regarder l'intérêt immédiat. Donc aujourd'hui, c'est une volonté politique. Et cette volonté politique, on a une occasion unique. Je dirais, c'est la seule. C'est la dernière chance. C'est le sommet de Copenhague. À la fin de l'année, au mois de décembre, on aura plus de 120 chefs d'État qui vont se réunir et qui vont parler de ces problèmes-là, qui doivent se mettre d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, là, c'est clair qu'on va à la catastrophe. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, en tant que citoyen, c'est aller sur le premier site internet sommet-copenhague.com ou .org, je ne sais plus, j'ai oublié. De toute façon, on le trouve en tapant Google, et de signer la pétition. Ça, c'est indispensable déjà en tant que citoyen.
Quand vous dites s'il ne se passe rien, et peut-être il ne se passera rien, ça veut dire qu'ensuite l'échéance, en termes de timing, combien de temps encore avant que ces océans s'emballent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un cocktail et puis que ce soit terminé, on n'arrive plus à arrêter le phénomène. Parce qu'on se rend bien compte, et je pense que quand vous plongez, vous vous rendez compte de la puissance de la nature. On le voit aujourd'hui quand il y a des séismes et autres, on est des toutes petites fourmis.
Hein. Ah, mais la nature fera sans nous, ça c'est clair.
Alors combien de temps pour que ces phénomènes liés au
moi je pense qu'aujourd'hui
carbone, l'acidité des océans.
Bon, déjà il faut savoir c'est qu'au cours d'une vie on a tous les plongeurs ont tous vu les changements s'opérer. Ça c'est évident. Moi je l'ai vu sur moins de 15 ans. Je veux dire, il y a des endroits où je suis allé après 5 ans.
Et ça, c'est systématique. C'est vrai que de n'importe quel pays, j'ai rencontré plusieurs plongeurs, c'est toujours la même chose. Ils ne retrouvent même plus les sites seulement 5 ou 6 ans après.
Tout à fait. Et ça disparaît à une vitesse grand V. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et c'est ce qui frappe. Moi, je pense très honnêtement que si en 2020, on n'a pas arrêté un petit peu tout ça, c'est foutu après. Enfin, quand je dis c'est foutu, c'est pas foutu. C'est ça va changer, ça va s'emballer, et le problème est toujours pareil, c'est l'irréversibilité. Tout le monde s'attend à une situation miracle où les scientifiques ils vont nous pondre quelque chose très vite, rapidement. Le problème, c'est qu'on est sur des échelles de temps très courtes pour revenir en arrière par rapport à des phénomènes qui mettent beaucoup de temps à s'établir. Et quand ils se sont établis, malheureusement, c'est trop tard.
Eh bien, on espère qu'il se passera quelque chose. Daniel Krupka, merci de nous alerter, peut-être alarmer aussi un petit peu sur ces sujets. Mais c'est vrai que l'océan n'est pas toujours juste à côté et on n'est pas aussi au centre, on n'y plonge pas dedans. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques aujourd'hui liées aussi à la vie quotidienne, problèmes de chômage économique, la crise, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses.
Prenez une minute, signez simplement la pétition.
On a bien noté.
Sommet Copenhague.
Sommet Copenhague.
C'est vraiment important et c'est un petit geste, mais au moins, si on fait tout ça, je pense que nos dirigeants, ils pourront se poser des questions.
Il faut aller aussi sur le site de greenpeace.org et je suis sûr qu'il y a une redirection sans problème internet.
Bien sûr.
Daniel Krupka, on vous retrouve dans une prochaine émission pour traiter bien sûr d'autres sujets.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Retrouvez l'interview du lundi au vendredi à 7h20, 12h15, 18h15 et 23h25.